Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Je suis convaincu, puisque la parole de Dieu l'atteste, que toutes nos prières arrivent devant le trône de Dieu, que nos appels à Dieu, nos cris à Dieu arrivent, et dit la parole de Dieu, qui se retrouve dans une coupe devant le trône de celui qui est tout-puissant. Amen. Quelle place de choix. Que nos prières puissent être accueillies devant le trône de Dieu. Alors la question, c'est, Dieu nous parle. Où accueillons-nous sa parole? Quelle place donnons-nous à ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous les plaçons au centre de notre cœur? Ou est-ce que nous faisons parfois semblant de dire ça, c'est pas pour moi, peut-être pour l'autre? Peut-être la personne au fond, oui, elle avait besoin de l'entendre. Moi, je pense qu'il n'y a pas une parole. Il n'y a pas une prophétie. Il n'y a pas une révélation qui, de près, ou peut-être un peu plus loin, ne nous interpelle pas et ne nous invite pas, frères et sœurs, à faire un examen de notre cœur. N'est-ce pas? Ce matin, puisque la parole de Dieu examine nos cœurs, je suis certain que la parole de Dieu va continuer de le faire. Nous voulons encore ensemble partager les Écritures. Et le thème du message de ce matin, c'est « Vivre en sécurité ». Le sujet de la sécurité au centre des inquiétudes de notre pays, n'est-ce pas? Dans les villes, tout se dégrade très vite. Et les villages, jusqu'à là plutôt épargnés, ne sont plus ce havre de paix que l'on pensait. Ceux et celles qui méditent les Écritures sont conscients de tout cela et ne sont pas surpris de la vitesse dont les prophéties bibliques s'accomplissent. Et je vous rappelle, et je l'atteste encore ce matin, nous sommes en plein dans l'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. Ne soyons pas aveugles, ne restons pas sourds. Nous sommes en train de vivre ce que la parole de Dieu nous annonce depuis des milliers d'années. Il est à nous, il est de notre responsabilité de comprendre, de saisir, puisque le problème, c'est que quand on n'arrive pas à saisir ce qui se passe, il y a un climat qui peut en réalité nous toucher, nous amener à suivre des courants de pensée de droite et de gauche. Et nous le voyons dans le monde entier, et en train de céder au vent de panique, d'anxiété, alors conspiration, anarchie, survivaliste, idéaliste, mouvement philosophique, tous communiquent, leurs idées cherchent à attirer pour sans pouvoir offrir une réelle solution. Et ce qui est étonnant, c'est que tous reportent la faute sur les autres. Je crois que comme moi, vous entendez, vous regardez à la télé, c'est toujours la faute des autres. Alors je me dis, Seigneur, qui est réellement responsable? Et vous savez, quand on pose des questions à Dieu, Dieu nous répond. Et la réponse, c'est comment vous en êtes arrivé là? Alors j'aimerais examiner cela avec vous ce matin par différents textes. Et le premier se trouve en Jérémie, chapitre 35, le verset 15. N'oubliez pas cette question, qui est responsable? Et la réponse de Dieu, comment vous en êtes arrivé là? Jérémie 35, 15 dit, « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, et je les ai envoyés dès le matin, dès le début, dès le commencement, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos agissements, ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte, et restez ainsi dans le territoire que je vous ai donné, ainsi qu'à vos pères. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille, vous n'avez pas obéi. » Dès le départ, Dieu nous a invités à quelque chose. Dès le départ, dès le matin c'est ce moment où le soleil se lève, très tôt. Êtes-vous matinier? Voyez-vous le soleil se lever ou vous préférez le voir quand il est bien levé et qu'il brille dans le ciel ? Hein ? C'est magnifique de voir ce soleil qui se lève et la nuit, elle est obligée de laisser toute la place. Rien ne peut résister à cette lumière puissante, rassurante. Alors pour d'autres qui aiment bien dormir, se disent mince, c'est déjà fini. Hein ? Et je crois que Dieu, dans sa sagesse, a voulu, dès le départ, nous avertir. Et il nous a envoyé les prophètes, il nous a envoyé sa parole, il nous a envoyé ceux et celles qui devaient nous rappeler cette invitation à nous approcher de Dieu. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous faisons partie de ces hommes, de ces femmes qui doivent dire aux hommes, reviens au Seigneur, reviens à Christ. Est-ce que vous avez eu quelqu'un cette semaine qui vous a dit « on ne comprend plus rien, c'est la folie. On n'entend parler que de violence, que de méchanceté. Le monde est complètement bouleversé, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de justice. Et on pointe toujours le doigt vers les uns, les autres. » Et Dieu nous rappelle que le problème, il est bien ailleurs. Le problème, c'est que nous n'avons pas forcément réformé nos agissements. Nous ne sommes pas restés sur le terrain que Dieu nous a donné. Quel est le terrain que Dieu nous a donné, frères et sœurs ? Je ne parle pas de terre. Je parle de terrain spirituel. Si, autant qu'enfants de Dieu, nous restons sur le terrain spirituel qui est celui de dire « qu'est-ce que la parole de Dieu me dit ?» Les événements que j'entends, que je vois, la parole de Dieu m'en parle. Quelle doit être mon attitude ? Est-ce que je me dois d'être, excusez-moi, en train de manifester à droite, à gauche ? On peut. Ça changera quelque chose ? Je ne suis pas certain. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis le premier à le faire. Je ne suis pas d'accord. Vous l'avez enregistré ? C'est bon. Mais je crois que malgré tout, puisque je lis la parole de Dieu, je vois que mon « je ne suis pas d'accord » ne va pas changer grand-chose. Par contre, si je reste sur le terrain qui est celui que Dieu m'a donné, il y a de quoi faire. Amen. Alors, certes, nous pouvons dire que ce monde ne peut pas revenir arrière. Vu l'élan qu'il a pris, c'est compliqué. Mais je crois que chacun de nous peut revenir en arrière en répondant à l'invitation de Dieu, peut changer quelque chose déjà pour lui, pour son foyer, pour sa famille, pour son quartier, peut-être même pour sa ville. Et si on est tous ensemble, même pour notre pays. N'est-ce pas ? Alors j'aimerais vous montrer un texte d'Ésaïe 65. Un texte qui nous parle de ce que Dieu veut faire pour nous. Ça va vous rassurer ce matin. Si vous êtes dans cette anxiété, dans cette crainte, vous savez, ça arrive plus qu'on peut l'imaginer, combien il y en a qui sont dans la peur. Ils ferment la porte de leur maison. N'étant pas sûr, ils reviennent. 5 minutes plus tard, mais est-ce que j'ai bien fermé ? Alors j'y reviens. Hein ? Est-ce que j'ai bien fermé la voiture ? Donc je sors, je vais fermer la voiture. Je referme la porte d'entrée et 5 minutes après, mais est-ce que j'ai bien fermé la porte d'entrée ? Vous rigolez ? Ésaïe 65, 17. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début et ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que j'ai créé. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra son temps, et le pécheur âgé de son temps sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Et ils ne peineront pas en vain, n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel. Et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi, je répondrai. Ils parleront encore que j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Quel avenir ? Qui veut de cet avenir ? Nous sommes, frères et sœurs, de ceux et celles qui ont eu la grâce déjà d'entendre le Seigneur frapper à la porte de notre cœur. Vous vous rappelez du jour où Jésus a frappé à la porte de votre cœur ? Qui s'en rappelle, lève la main. Oui ? Non ? Quel est le souvenir que vous en gardez ? Heureux. Vous avez vu ce que la parole de Dieu ? Dieu veut faire de nous un peuple heureux. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas et on pourrait se dire « Ah, on fait semblant que tout va bien ». Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Mais Dieu nous appelle à être heureux d'avoir un recours devant toutes les difficultés, devant tous les problèmes, devant toutes les maladies. Nous avons un recours et ce recours s'appelle Jésus. Amen. Alors que se passe-t-il pour ceux qui n'ont pas cette espérance dans leur cœur ? Parce qu'il est question de faire de Dieu notre Dieu. De faire de Dieu notre Seigneur, notre Sauveur. La parole de Dieu nous amène à réfléchir et vous avez vu dans ce texte que nous avons lu de Jérémie, il dit là, je vous ai envoyé mes prophètes, mais vous n'avez pas voulu entendre. Il y a des choses qui nous empêchent en réalité ou qui nous retiennent de répondre à l'invitation de Dieu. Il y a des choses qui pourraient nous empêcher finalement de rentrer dans cette promesse de Dieu. Et on pourrait vivre dans un rêve. Aujourd'hui, il y a cet aspect de la tridimension. Vous savez, quand les enfants, les jeunes, ils aiment ce genre de jeu où ils mettent un casque, hein, vision, comment ça s'appelle ? En 3D, voilà. Vous voyez, c'est pas les jeunes qui répondent, c'est la deuxième jeunesse qui répond. Hein ? Ils mettent un masque, ils mettent ce truc et ils sont dans un autre monde. C'est virtuel. Ouais. Je vois que tu es informé, hein, Guy ? Combien aujourd'hui de chrétiens vivent dans un monde virtuel ? Ils rêvent de quelque chose, mais ils ne sont pas sûrs de l'avoir obtenu. Je crois que quand Dieu nous parle, il nous parle de quelque chose de réel directement. Quand je vois qu'il nous parle du salut, il dit que celui qui a cru sera sauvé et passe de la mort à la vie maintenant. J'ai pas besoin de rêver. C'est fait. Le pardon, il est immédiat. Le salut, il est immédiat. Quoi qu'il arrive par la suite, mon âme appartient à Dieu. Je peux vivre autrement. Je dois vivre autrement. Je dois voir autrement. Je dois réfléchir autrement. Alors, il y a une partie de moi qui m'amène à vivre dans l'ancien régime, le virtuel. Si vous prenez un enfant, suite à toutes les belles histoires qu'on a pu leur raconter, de quoi il va vous parler ? Alors les filles, ça sera... Moi, je serai une princesse. Un château, la limousine, le chauffeur, la personne qui fait le ménage, l'autre qui cuisine. Combien d'entre vous ont rêvé de ça quand vous étiez petit ? Soyez vrais. Je viendrai aussi aux frères, hein, vous inquiétez pas, je ne raterai personne ce matin. Et les frères, gamins, ou super-héros, ou pompier, ou prince. Prince. Footballeur, c'est pour l'argent. Mais l'idée, c'est d'être celui qui gagne tout, hein, qui remporte tout et qui connaît jamais de défaite. Et dans la réalité, vous en êtes tout. Y a-t-il des princesses parmi nous ? Oui, pour Christ. C'est la seule manière d'y accéder. Mais la réalité nous rattrape. Il y a des choses dans la réalité de notre vie qui nous rattrapent. Vous savez pourquoi ? Parce que malheureusement, on s'est laissé avoir par le virtuel. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est ce qui a toujours existé. Sauf que jusque-là, on préférait le cacher, on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, les médias font que tout se sait partout. Il y a des années de cela, il y aurait eu un tremblement de terre. Dans un tel endroit, personne n'aurait su, à part que si quelqu'un avait envoyé un courrier. Alors, le temps qu'il l'écrive, le temps qu'il l'envoie, le temps que ça arrive, on se dit, oh là, il y a 6 mois en arrière, ils ont eu un tremblement de terre, quand même. Ça n'a pas le même impact, non ? Maintenant, là-bas, ça tremble et nous, on le voit. Et dès que ça finit une chose, il y en a une autre. Et dès que celle-ci s'est arrêtée, il y en a une autre. Et ça devrait nous amener à la réalité de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Et il nous dit que dans les derniers temps, tout cela va s'accélérer. Alors, qu'est-ce que pouvons-nous faire aujourd'hui ? Comment pouvons-nous réagir ? Est-ce que voulons-nous véritablement vivre dans ce que Dieu a prévu pour nous, ou est-ce qu'on est prêt à passer à côté ? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher ? C'est le simple fait de ne pas répondre à l'invitation de Dieu. Alors j'ai trouvé dans la parole de Dieu différents textes où Dieu nous invite. Et j'aimerais les partager avec vous ce matin. Vous savez très bien, il dit la parole de Dieu, car le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Alors, écoutez l'invitation du Seigneur, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez, donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Venez, invitation de Dieu ce matin. Dieu nous invite. On pourrait se dire, mais ok, pour le péché, vous savez, le péché c'est quelque chose quand même qui... Et particulier parce qu'autant on le déteste, autant on peut l'aimer. On déteste les effets collatéraux, mais on aime ce qu'il nous rapporte dans l'immédiat. Et après, ça laisse un goût amer. Donc on le déteste, mais après on va le rechercher. Et le Seigneur voudrait nous séparer de ça parce qu'à force, on s'enlise. À force, on est comme dans des sables mouvants. On descend. Et il y a un moment où on ne pourra plus sortir. L'ennemi aura atteint le but, qui est celui de nous immobiliser. On parle du péché, mais il y a encore autre chose. Agée chapitre 1, versets 6 et 7. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, mes frères, moi, j'ai réglé le problème du péché ce matin. Alléluia, je dis 2 fois. Alléluia. Mais peut-être qu'il y a un autre problème. Vous avez beaucoup semé. Agée chapitre 1, versets 6 et 7. Et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Est-ce qu'il y a un juste retour des efforts ? Parfois, on peut être piégé par ça. Puisque je ne reçois pas autant que je fais de sacrifices, c'est que Dieu ne me bénit pas, alors il ne m'aime pas. C'est une erreur de penser comme ça. Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Et il ne manquera jamais. Combien de fois j'ai pu expérimenter cette grâce de Dieu. Alors qu'en ouvrant les placards, il n'y avait plus rien. En ouvrant le frigo, il n'y avait plus rien. En faisant toutes les poches des pantalons et des vestes, il n'y avait plus rien. Mais au moment venu, Dieu savait comment répondre. Et Dieu n'a pas changé. Cette expérience, je ne l'ai pas faite parce que je suis le meilleur. Je l'ai faite parce que j'avais besoin. Et j'ai crié à Dieu. Et je crois qu'encore aujourd'hui, tous ceux et celles qui crient à Dieu, Dieu leur fera vivre la même expérience. Parce qu'il est pour nous un Père qui prend soin de ses enfants. Alors, comment répondre à cette difficulté dans laquelle peut-être on peut vivre la peur de ne pas avoir suffisamment, la peur de ne pas arriver à boucler la fin du mois? Ça existe, ça aussi, parmi les frères et sœurs en Christ, oui. Alors, Ésaïe 55, versets 1 et 3, la réponse de Dieu, l'invitation de Dieu. « Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Étrange manière d'acheter, hein ? Non ? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'ont pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Et vous vous délecterez des mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin a besoin de sortir de l'anxiété de ses besoins? Ne levez pas la main. Dites-le au Seigneur ce matin. Est-ce que quelqu'un vit dans cette crainte, dans cette anxiété? Vous savez, c'est normal. Moi, je me rappelle de combien de fois avec mon épouse, au démarrage de notre mariage, on s'est retrouvés d'un coup, pas de boulot ni rien. On s'est dit, Seigneur, on va faire comment ? Seigneur, je vais faire comment ? J'ai dit à Dieu, tu as permis que je puisse me marier pour la rendre malheureuse ? Je ne crois pas. Je sors de ma chambre et je me rends compte que le téléphone était débranché. Je rebranche le téléphone et d'un coup, ça sonne. Quelqu'un qui m'appelle, me dit, tu peux venir avec moi ? Allons-y. Je lui ai dit, mieux sortir que broyer du noir. J'avais plus de larmes, j'avais tout pleuré dans ma chambre. Alors je pars, et en route, il me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui cherche pour tel travail, ça t'intéresse ? Je n'avais même pas dit le temps de dire Amen. Mes frères et sœurs, je crois que certes, on peut avoir l'inquiétude de demain et dire, mais apportons nos besoins au Seigneur. Et laissez-le agir. On peut être pris par le stress de ce que nous vivons, mais arrêtons aussi de chercher un bouc émissaire pour tout. Prenons nos responsabilités. Psaume 38, versets 3 à 9. C'est un homme qui parle et qui sait de quoi il parle. Pourtant, il était bien placé. Il était roi. Waouh ! Un roi. Psaume 38, versets 3 et 9. Cet homme fera une analyse et pourtant, par moments, il pourrait dire ben, « Seigneur, moi j'ai voulu te suivre. Tu m'as dit, c'est toi qui es venu me choisir. Moi, j'étais bien avec mes moutons. Hein? Quelqu'un est venu m'aouin, me dit « Tu seras roi. » Conséquence, va te battre avec le géant. Conséquence, tu te retrouves marié avec la fille du roi. Conséquence, elle ne veut pas de toi. En réalité. Et le roi, ton beau-père, essaie de te tuer. Wow, tableau magnifique. Qui voudrait un beau-père comme ça ? Personne. Bon. Et David, il aurait pu dire, c'est la faute de Saül, c'est la faute de ma femme. Tu vois la femme que tu m'as donnée, Seigneur ? Quelqu'un d'autre avait fait déjà l'essai. Il a eu sa réponse. David dira, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. État des lieux. Matthieu 11, 28, il nous dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais oui, mais pasteur, ça c'est dans le Nouveau Testament. David, il est dans l'Ancien, il a fait comment? Non? Psaume 32, versets 3 à 5. Psaume 32, versets 3 à 5. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » David y dormait plus, il mangeait plus, il vivait plus. Le sourire n'était plus sur son visage. Les larmes, il n'y en avait plus. Les douleurs étaient intérieures, extérieures, droite, gauche, en haut, en bas. Il n'y avait rien de bon. Il aurait pu s'en prendre à tout le monde. Il aurait pu même dire au Seigneur, « Mais écoute, moi j'étais tellement bien avec mes brebis. Quand il fallait, je m'occupais du lion, je m'occupais de l'ours, mais là c'est trop grand pour moi. C'est mes propres péchés, j'y arrive pas. » Et il aurait pu rester dans son orgueil. Il a su en faire preuve par moments. Il a commis des erreurs, David. Comme nous tous, gardons-nous de juger ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Mais disons, Seigneur, si tu as fait grâce à David, tu feras grâce aussi à moi ce matin. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas l'évangile de Matthieu, le pauvre David. Ah, mais vous, vous l'avez. Donc, pas d'excuses. Alors, il a fait quoi? Il a compris. Tant que je me taisais. Et finalement, il a compris qu'il ne fallait pas se taire, il ne fallait pas chercher un bouc émissaire. Il a dit, je t'ai fait connaître mes transgressions. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai avoué mes transgressions à l'Éternel. Et la suite, c'est quoi? Et tu effaces plus fort. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, ce matin, efface la peine de mon péché, s'il te plaît? Moi, je le dis pour moi. Moi, je dis, Seigneur, efface la peine de mon péché. Quand on n'est pas en règle avec Dieu, on n'est pas bien. Ma mère avait le chic de trouver toujours quand j'avais fait une bêtise. Je ne sais pas comment elle faisait, elle avait un détecteur. Dès qu'elle me voyait arriver, elle me disait, t'as fait quoi? Alors moi, très charmeur, bonjour maman. T'as fait quoi? Et pourquoi tu... Je sais, t'as fait quelque chose. Je le vois dans ton visage. Quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien, on ne regarde jamais droit dans les yeux. Et même si on le fait en disant comme ça, j'arrive à passer entre les mailles du filet, je peux vous dire que les yeux disent « ça ne va pas ». Non? Et quand on n'est pas bien, il y a quelque chose qui nous taraude, c'est comme une machine à laver à 800 tours, en plein système de centrifuge. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est comme les vieilles machines, ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace. Ça secoue dans tous les sens, on n'arrive pas à trouver la paix, le jour, la nuit, on n'y dort plus. Jusqu'au moment où finalement, on ouvre notre cœur, on dit voilà, il y a ça qui ne va pas. Mais Dieu le sait. Alors vouloir le garder pour nous, ça produit quoi? Un, on n'est plus dans la paix avec Dieu. Deux, on a tendance à s'éloigner de Dieu parce qu'on veut cacher notre péché. Trois, on donne écoute à celui qu'en effet veut nous arracher à Dieu. Non ? La meilleure manière de faire, c'est de confesser nos péchés. Alors peut-être que nous avons fait comme David, il a résisté jusqu'au bout, et au bout il s'est rendu compte que même ses os ne supportaient plus. Alors il dit, j'ai confessé mon péché. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu soit béni, parce que Dieu nous a fait une invitation. Et vous savez, cette invitation, nous l'avons lue déjà au départ. Il dit, j'ai envoyé mes prophètes dès le matin. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons au chapitre 22, verset 4, et il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Quelle invitation! Vous savez, même à cette invitation, il y en a qui ont répondu comment? C'est direct. Ils ont dit, tu sais, j'aurais voulu venir, mais je ne peux pas. Je viens d'acheter des bœufs, il faut que j'aille les essayer. Hein? Je ne sais pas quelle marque c'était, les bœufs, mais ça ne pouvait pas attendre. Et l'autre, je viens de me marier. Mais jamais il t'a dit, tu ne peux pas venir avec ta femme. Non? L'invitation est pour la famille. Quelles sont les excuses qu'on donne à Dieu, encore aujourd'hui, nous, dans notre vie, alors que le Seigneur nous dit, viens, tout est prêt. Soyons attentifs, parce qu'il y a un moment où la porte du lieu où les noces vont se tenir, elle va être fermée. Et on a beau frapper derrière la porte, on a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau avoir préparé nos habits, être habillé, la lampe allumée, on a racheté de l'huile parce qu'on n'en avait plus, et dire, mais Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, la réponse sera, je ne vous connais. Le nom qu'on a donné, il revient comme un boomerang. Non ? Le Seigneur nous dit, venez. Venez à la fête de l'Évangile. Luc chapitre 14, verset 17. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Amen. C'est pas demain le retour de Christ. Hein. Ça pourrait arriver aujourd'hui. Hein. Sommes-nous prêts? Vérifiez votre ticket. Vous avez vu hier le reportage pour les passeports avec le système pour pas... On peut pas. Eh bien, avec le ciel, c'est encore pire que ça. Si tu ne portes pas l'empreinte de Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, si tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit, tu ne rentreras pas. C'est clair. Eh, mais Seigneur, je l'ai acheté à tel endroit, mon passe. J'avais des amis, quand j'ai fait mon service militaire, qui habitaient une ville très connue. Naples. C'est la capitale mondiale de la contrefaçon. Tout est faisable, tout est réalisable. Faites la loi, ils trouveront le moyen de la détourner. Premier temps de la loi sur la ceinture de sécurité en Italie, ils ont sorti des t-shirts avec un trait noir. De loin, tu voyais la personne, tu disais, il a sa ceinture. Mais non, c'était juste un trait noir. Ils fonctionnent comme ça, c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de dire, il y a la règle, mais nous... Et vous savez, avec Dieu, la contrefaçon ne passe pas. Il n'y a de salut en aucun autre, dit la parole de Dieu, qu'en Jésus-Christ. Je termine. Il y a un texte qui a parlé beaucoup à mon cœur, et c'est l'invitation que Dieu a faite à un homme dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, le verset 1. Noé. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. » Dieu a tout mis en œuvre pour sauver une famille. À cause de Noé. La terre était vouée à la destruction à cause du péché. Mais Dieu a pris compte de Noé. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu prend compte de chacun de nous? Mais qu'est-ce qui se serait passé si Noé n'était pas rentré dans l'arche? Quel aurait été le résultat si Noé n'avait pas écouté l'invitation de Dieu à entrer dans l'arche? Dites-moi. Et qu'est-ce qui se passera si nous, on n'accepte pas l'invitation de Dieu? Si nous, on fait semblant de ne pas entendre? Jacques chapitre 1, verset 25, c'est le dernier texte, promis. Mais à celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Amen. Quand la parole de Dieu nous invite à être heureux dans ce que nous faisons, c'est qu'il a, le Seigneur, il a agi pour enlever toute anxiété. Le Seigneur a œuvré pour enlever de nous toute peur. Peur du lendemain, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir. Je voudrais encourager les jeunes ce matin. Dieu veut que vous puissiez réussir. Mettez Dieu dans vos affaires. Laissez Dieu prendre soin de vous. Faites confiance à Dieu. Oui, mais moi, je voulais être cosmonaute. Vu les temps qui courent. Hein? Peut-être que le Seigneur t'amènera à vivre autre chose. Vous savez, moi, j'en ai fait des rêves dans ma vie. Je termine par ça. J'en ai fait des rêves dans ma vie. Première chose, à 15 ans, je suis entré comme technicien en informatique. Plus jeune technicien IBM d'Italie. Je me suis dit là, c'est bon, c'est parti. 3 ans, fini. Bon, ok. Je travaille dans une station télé. Ah, je me dis là, c'est parti. C'est bon, tu as trouvé ta voie. 3 ans, fini. Et après, je suis reparti dans un autre truc. Et je me suis dit, mais là, ça doit être le bon. 3 ans, fini. Et je ne comprenais pas, je me disais, Seigneur, je suis dans un éternel recommencement. Pourtant, je prie, tu ouvres la porte et après la porte, elle se ferme. Il y a un souci. Je commence des études comme comptable. Apparemment, je ne savais pas compter. Pas suffisamment pour les profs. Ça n'a pas réussi. Je commence l'école comme technicien informatique. Bon, ok, ça va. Je finis mes études, très content. Le jour où je suis sorti de l'école, il grêlait tant que le ciel était heureux pour moi. Ma mère, elle m'a dit, j'ai jamais vu ces notes-là, qu'est-ce que tu as fait? T'as magouillé avec quoi? J'ai rien magouillé, j'ai travaillé. Hein? Pour une fois, quand même. Hein? Et je me suis dit, mon chemin est tracé. Et ce n'était pas ça. J'ai ouvert une entreprise, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est lancé. Ce n'était pas ça. Je suis entré à travailler à l'aéroport de Balmulhouse. Je me suis dit, ben là, c'est bon, Emmanuel, c'est bon. Une fois de plus, c'est bon. Allez. C'était pas ça. Mais tout ce que le Seigneur m'a fait traverser, en réalité, j'étais en formation pour ce que Dieu avait prévu. Et je voudrais vous dire, nos jeunes, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça ne réussit pas. Vous êtes à l'école. Vous apprenez. Mettez cette expérience de côté. Tôt ou tard, Dieu vous montrera pourquoi vous êtes passé par là. Qu'est-ce que vous aviez besoin d'apprendre? Le jour où je me suis trouvé à décharger un camion avec des cochons suspendus, je me suis dit, Seigneur, t'es sûr? Ça sent le cochon. Ça sent pas bon. En plus, le cochon, il n'est pas pur. J'ai dit, Seigneur, tu... Et dans mon cœur, j'ai entendu, pousse les cochons. Oh, combien de choses j'ai pu apprendre. Et je bénis le Seigneur. Peut-être à l'immédiat, j'étais un peu râleur. Un peu beaucoup. Mais avec le temps, on apprend. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin, certes, il y a bien des sujets qui pourraient nous faire sentir un peu en déséquilibre, nous faire perdre pied. Mais nous avons un Dieu qui tient à nous, qui prend soin de nous, qui nous aime et qui nous a invités à vivre quelque chose d'autre que le monde ne connaît pas, mais auquel on peut le présenter. Et la meilleure présentation, c'est ce que nous allons vivre. Alors on va fermer nos yeux. Et ce matin, je voudrais inviter tous ceux et celles qui, pendant toute cette période, par l'ensemble des circonstances, des situations, se sont trouvés à vivre dans l'anxiété. Je voudrais vous inviter ce matin à déposer cette anxiété auprès du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tous ceux qui sentent qu'encore le péché a emprise dans leur cœur, venez, le Seigneur est prêt à changer la couleur de votre vie, de votre existence. Même si vos péchés sont noirs, le Seigneur est prêt à vous rendre blanc comme la neige, dit la parole de Dieu. Peut-être vous avez des besoins, vous vous êtes fatigué, vous êtes donné à plein pour plein de choses, il n'y a pas de résultat. Venez acheter auprès du Seigneur, sans les sous. Dieu pourvoira vos besoins, le besoin de votre âme, mais aussi celui de votre corps. Et encore ce matin, le Seigneur vous dit, les noces sont prêtes, la table est préparée, tout est déjà prêt. Venez, ne restons pas dehors, ne restons pas loin du Seigneur. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, l'appel que nous voulons, Seigneur, encore ce matin partager, c'est celui de ta parole, où tu nous invites à venir, Seigneur. Et chacun de nous, nous avons certainement encore des raisons ce matin pour venir à toi, Seigneur. Seigneur, pas besoin de lever la main. Notre cœur s'incline devant toi en te disant, Seigneur, viens, viens s'il te plaît. Seigneur, je viens à toi et toi viens à moi, viens dans mon cœur, viens dans mon existence, Seigneur. Seigneur, je veux te prier encore pour notre jeunesse, Seigneur, qui peut-être vit dans la crainte du lendemain, Seigneur. Seigneur, merci de rassurer leur cœur. Merci de les conduire pas après pas, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, encore pour ceux et celles qui sont dans l'attente, Seigneur, d'une réponse particulière à un besoin particulier. Ta main sera donnée, Seigneur, ce dont ils ont vraiment besoin, Seigneur. Et tu les garderas, Seigneur, des mauvais choix, Seigneur. Seigneur, merci encore parce que tu es le Dieu du pardon. Et ce matin, celui qui vient à toi avec un cœur repentant, Seigneur, tu changes sa vie, tu changes son existence, tu changes son avenir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que certes, cette terre n'a plus d'espérance, mais nous, nous avons mis notre espérance en toi et tu as, Seigneur, préparé, tu prépares nouveaux cieux, nouvelle terre, Seigneur, où la souffrance ne sera plus, Seigneur, la peine ne sera plus, Seigneur. Et Seigneur, finalement, nous serons dans ta présence pour glorifier le nom du Tout-Puissant. Amen.